Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour à tous. Madame le professeur Barré-Sidoussi, Madame la présidente de l'Académie de l'espace, Madame Mangui.
Aujourd'hui, nous allons parler de technologie spatiale au service du développement en Afrique. Pour suivre tout cela, il faudra vraiment une oreille attentive. Pour notre part, nous avons assisté à un colloque sur aéronautique et applications spatiales au service de la santé en Afrique le 30 janvier dernier au siège parisien du Centre national d'études spatiales. Ce colloque est organisé par une association qui milite justement pour le développement de cette technologie spatiale, AASO. Pour un public non averti, quand on parle de l'espace, on voit la navette spatiale américaine, la fusée française Ariane ou les vaisseaux spatiaux russes s'envoler dans une profusion de grondements et de feu. Pour un lancement d'une fusée Ariane 5 par exemple, il faut compter 150 millions d'euros. Pour la fabrication et le lancement d'une navette spatiale, il faut environ 30 milliards de dollars. Et il faut une somme invraisemblable de technologies pour réussir un lancement. La question ici est de savoir pourquoi un pays investit autant d'argent et autant de savoir dans une telle affaire. C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui dans ce colloque international organisé au Centre national d'études spatiales à Paris. Il s'agit d'une réunion internationale de savants venus de tous les continents et qui ont accepté de sortir de leur laboratoire pour 48 heures. Dans un tel sérail, le premier défi est d'abord de comprendre ce qu'ils disent. Donc, comprendre de quoi il est question lorsque ces femmes et ces hommes parlent de technologie spatiale. Et pour cela, nous avons d'abord discuté avec le docteur Linda Tomasini, qui est ingénieur au Centre national d'études spatiales en charge du développement des applications spatiales à l'international. Avec elle, nous aurons de quoi vous émerveiller, tout simplement parce que vous n'avez jamais envisagé le monde dans de telles dimensions.
Alors, on a en tête en fait que les systèmes spatiaux servent à la science ou bien à l'exploration de l'univers. Et en fait, on découvre, on prend conscience qu'ils ont un potentiel important, enfin que les systèmes spatiaux, les technologies spatiales ont un potentiel important dans beaucoup de secteurs d'usage qui sont en lien avec la société, le développement économique. Donc parmi ces secteurs d'usage, on peut parler de l'agriculture par exemple. On peut utiliser des images d'observation de la Terre prises par satellite pour faire le suivi des cultures, faire des prévisions de récolte, améliorer les pratiques agricoles. On peut parler du secteur des transports où les constellations de positionnement par satellite telles que Galileo, qui est la constellation européenne pour faire du positionnement par satellite, donc l'équivalent du GPS que les gens connaissent très bien, tout ce qui est télécommunication spatiale. Donc les gens connaissent la télé par satellite, évidemment. Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des liens Internet par satellite, ce qui permet de couvrir des zones enclavées qui sont inaccessibles par déploiement de câbles sous-marins ou de câbles terrestres, et, enfin, qui rendent ce déploiement plus difficile et par contre la couverture satellite. Donc on a les satellites géostationnaires qui permettent d'assurer une couverture très large mais limitée de l'équateur jusqu'aux moyennes latitudes. Et maintenant, on a des constellations de satellites polaires qui vont permettre de couvrir l'ensemble du globe et donc toutes les latitudes.
Attendez, c'est quoi un satellite géostationnaire ?
Un satellite donc géostationnaire, c'est un satellite qui est situé sur une orbite très éloignée de la Terre, à 36 000 km de la Terre. C'est une orbite équatoriale et les propriétés de la mécanique spatiale sont telles que en fait ce satellite a une position fixe par rapport à la Terre.
Admettons, voilà. Bon, prenons Kinshasa. Le satellite géostationnaire est à 36 000 km. Il tourne en même temps que Kinshasa. Donc, il est tout le temps en face de Kinshasa, en tout cas la plupart du temps.
C'est ça. Voilà, exactement. Donc, ce qui fait qu'au-dessus de Kinshasa, eh bien, on aura un satellite qui va couvrir en permanence et qui est comme immobile dans, en position relative par rapport au sol.
Alors que la constellation, j'ai comme ça une série de satellites que j'ai positionnés et qui font le tour de la Terre.
Voilà, donc on parle de satellites défilants. Par opposition aux satellites géostationnaires, les satellites défilants, donc ce sont des satellites qui bougent, qui ont un mouvement relatif par rapport à un point terrestre. Et d'ailleurs, qui vont à une vitesse assez élevée. Hein. Donc quand vous avez un satellite défilant qui passe au-dessus de Paris, par exemple, il va passer à une vitesse apparente de 7 km à la seconde. C'est ce type de satellite qu'on utilise pour faire des images et qu'on utilise aussi maintenant pour les moyens de télécommunication. Et on comprend qu'en effet, on a besoin de plusieurs satellites pour couvrir l'ensemble du globe.
Donc, ce qu'on appelle par exemple la télémédecine utilise les satellites comme vecteur avec un équipement déployé au sol.
Oui, alors j'imagine qu'il existe aussi des systèmes de télémédecine qui n'utilisent pas les télécommunications satellites, mais les télécommunications satellites, elles ont un potentiel important pour développer ces systèmes de télémédecine, pour justement atteindre des zones, les zones dont on parle, qu'on qualifie de blanches ou de zones grises, puisqu'elles ont une couverture terrestre par les réseaux télécoms qui est lacunaire.
Quand vous utilisez votre téléphone portable, quand vous allez sur Internet ou quand vous utilisez un distributeur automatique à votre agence bancaire, vous utilisez une borne au sol reliée à une autre borne à disposition de votre correspondant. Ces deux bornes étant reliées entre elles par un dispositif technique via un satellite prépositionné quelque part dans l'espace au-dessus de nos têtes. Mais ce ne sont pas là les seules applications de ce spatial.
Il y a un enjeu important qui est lié au changement climatique. Les satellites d'observation de la Terre sont un atout important pour comprendre notre planète et comprendre les phénomènes qui sont la cause du changement climatique et également pour comprendre les impacts du changement climatique et les anticiper.
Ah, disons que le changement d'optique, c'est qu'avant, moi j'étais dans mon champ. Tout ce que je pouvais voir, c'était pas loin. Mais là, on peut. Le spatial permet d'observer notre globe pour une fois dans sa globalité.
C'est ça, tout à fait. C'est
exact. Et voir ce qui se passe.
Voilà, c'est la plus-value du spatial, c'est de pouvoir prendre du recul sur la Terre, de pouvoir avoir cette vision globale. Une vision aussi qui va être multicapteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des données de nature différente. Tout le monde a en tête Google Earth et les images de la Terre qu'on peut voir sur Google Earth, mais on peut aussi avoir des images qui vont nous donner des informations sur l'humidité des sols, des images qui vont nous donner des informations sur la salinité des océans ou bien sur la température des océans. Donc c'est un peu comme si on auscultait la Terre grâce à tous ces capteurs qui sont sur divers systèmes satellitaires.
Je peux même me permettre de voir la mécanique en jeu dans la vie des déserts, l'avancée ou pas des forêts.
Oui, oui, tout à fait. En fonction des types de capteurs, on va pouvoir avoir des informations sur l'état des forêts, sur l'état des ressources en eau, sur l'état des océans.
Je n'ai même pas besoin de câbles ou de gros équipements.
Exactement. On aura besoin peut-être d'antennes au sol, de choses comme ça, mais bon, il y a tout un système économique de chaîne de la valeur qui permet de proposer des services de communication qui dérivent de ces systèmes satellitaires.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous sommes partis de l'idée d'une utilisation des technologies spatiales au service du développement économique et social dans les pays africains. La téléphonie mobile a démontré ces 10 dernières années que tout cela était tout à fait possible, même dans les zones enclavées comme certaines zones rurales loin de tout. Et le thème central du colloque auquel nous avons été conviés, c'est l'aéronautique en général et les applications spatiales au service de la santé en Afrique. Précisons une fois de plus que cette rencontre a été initiée par une association qui milite pour le développement de cette technologie spatiale en Afrique. Sekou Ouédraogo est le président de cette association. C'est un peu l'homme par qui tout cela est arrivé.
Je suis ingénieur dans le domaine de l'aéronautique, dans un groupe industriel international du domaine de la défense, la sécurité.
Alors, nous sommes là pour un colloque sur l'espace, le spatial et la santé. Et c'est organisé par votre association, c'est AASO. Alors, c'est quoi cette association?
Ça veut dire African Aeronautic and Space Organization. C'est une association à but non lucratif qui est basée en France avec une succursale au Burkina, un représentant au Bénin et un autre en Afrique du Sud. L'objectif de l'association, c'est de concourir au développement des sciences aéronautiques et spatiales au profit du développement durable de l'Afrique.
Il y a une genèse à cette affaire.
Oui, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'Agence spatiale, vecteur de développement. Les gens m'ont demandé qu'est-ce que vous allez faire pour concrétiser ce qui est écrit dans le livre. Et de là, comme l'astronaute français Jean-Loup Chrétien avait préfacé le livre, il m'a proposé de créer l'AASO pour justement convaincre les décideurs africains de l'intérêt d'utiliser ces sciences et ces outils pour le développement.
Alors, c'est parti d'un constat. Je vais tenter de résumer, c'est-à-dire que l'Afrique a des contraintes climatiques, un retard technologique. Il y a des difficultés économiques et des conflits de toutes sortes, de toute nature. Et dans le même temps, les matières premières sont sur ce continent.
Tout à fait. C'est vrai que, comme vous le dites, on souffre de conditions climatiques difficiles. C'est vrai qu'on est le sujet de conflits réguliers. Mais effectivement, on a quand même la majorité des matières premières, les matières agricoles, précieuses, énergétiques sur notre continent. On a une population très très jeune avec un gros potentiel et on a ce que j'appelle le génie d'adaptabilité. Donc on a la capacité, et d'ailleurs l'avènement de la mobile monnaie au Kenya démontre bien qu'on a un génie dans le domaine de la technologie.
Alors il se trouve que le spatial peut donner un coup de fouet à tout ça?
Oui, tout à fait. Alors ce sont des sciences qui ne sont pas si chères que ça. Des sciences qui permettent d'agir dans beaucoup de domaines, aussi bien l'agriculture, la préservation de l'environnement, la lutte contre les feux de forêt, la recherche de matières premières. Il y a beaucoup d'applications qui peuvent nous aider dans des continents où on a peu d'infrastructures routières notamment. Ce sont des outils qu'il ne faut pas négliger.
Il faut qu'on s'attende à ce qu'on appelle le spatial, parce que dit comme ça, on voit le satellite. Mais en fait, c'est l'outil numérique.
Oui, tout à fait. Le spatial, on parle de spatial parce qu'on parle beaucoup du vecteur qui est le satellite. Mais c'est vrai qu'autour de ça, l'information que le satellite reçoit ou même envoie, le satellite le fait sous la forme de numérique.
On va essayer d'être pratique. Voilà, je prends mon téléphone, je suis au village, je prends mon téléphone, j'appelle un copain au village voisin. En réalité, mon téléphone corde ma voix de façon numérique, l'envoie au satellite qui le transfère à l'autre téléphone. C'est le vecteur.
C'est pas si simple que ça, mais pour résumer, on peut dire que ça ressemble à ça.
Donc vous avez créé une association autour de toutes ces notions-là, et cette association existe depuis maintenant 2 ans.
Tout à fait, elle existe depuis 2 ans. Donc comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de convaincre les décideurs africains d'utiliser, pour résumer, le satellite et le drone pour le développement durable de leur population. Et donc nous, pour les convaincre, on a décidé de faire des projets de développement, de réunir industriels, chercheurs et institutionnels pour discuter autour des problématiques. Et donc faire de la pédagogie et montrer concrètement l'intérêt de ces outils.
Dans un premier temps, montrer que c'est possible.
Voilà, tout à fait. Parce que quand on parle à des chefs d'État de ces technologies, ils vous prennent pas trop au sérieux. On a déjà beaucoup de problèmes sur Terre. Donc quand on parle d'aller dans l'espace, c'est des choses qui nous rendent peu crédibles. Et montrer de façon concrète, par des exemples, même petits, mais parlants, c'est quelque chose que nous voulons faire.
Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de spatial et santé.
Le thème, c'est aéronautique et applications spatiales au service de la santé. Donc le spatial, c'est les satellites, mais aussi les drones. Donc il y a quelqu'un qui a parlé d'une application de drone en rapport avec la sécurité sanitaire. Donc il y a aussi des applications qu'on peut faire avec des drones. Il y a au Rwanda une application qui consiste à aller livrer des poches de sang à des femmes enceintes qui en ont besoin par drone. Donc c'est une application qu'on peut aussi utiliser et qui est moins chère qu'un satellite, par exemple.
Vous avez aussi parlé de l'exemple de la potabilité de l'eau.
Oui, ça c'était un outil qui existait il y a plusieurs années. C'était un capteur qu'on mettait dans les puits, qui analysait en fait chimiquement et qui prenait certaines informations de l'eau, qui les envoyait par satellite à un laboratoire, qui prenait ces infos et qui expliquait si l'eau était potable ou pas.
Il y a aussi des utilisations dans l'agriculture.
Oui, il y a des applications qui sont intéressantes, notamment pour les maladies des plantes. Quand vous avez des plantes qui sont malades, elles ont une couleur différente qu'on ne peut peut-être pas percevoir quand on est dans le champ, mais très très haut, avec un balayement d'ondes électromagnétiques, la parcelle qui est malade renvoie ce qu'on appelle une empreinte spectrale, donc une onde, que le satellite analyse et qui montre que par exemple la plante est malade. En fait, ce qui se passe, le satellite il envoie une onde électromagnétique au maïs. Le maïs, il a une composition physico-chimique qui fait que quand il est excité, il renvoie une onde qu'on capte, cette onde on l'analyse, et en fonction de l'état de santé du maïs, comme ils ont déjà fait des tests avant, ils savent que quand le maïs est malade, l'onde est de telle forme, ils arrivent à savoir si le maïs est malade ou pas.
Par exemple, si mon chat, telle partie a soif, telle partie souffre de stress hydrique, le satellite peut me le dire.
Alors, on est capable, effectivement, il y a des applications satellitaires qui permettent de gérer l'eau. À savoir, par exemple, s'il y a de l'eau enfouie sous terre, savoir si le niveau de l'eau a baissé anormalement ou pas. Il y a pas mal d'applications, effectivement, liées à l'eau qui peuvent être réalisées avec un satellite.
Alors, donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous avez réuni ce colloque, différents acteurs, beaucoup d'intervenants dans cette histoire, pour discuter, pour voir ce qu'il est possible de faire.
Tout à fait. Alors, il y a notre marraine, c'est la prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi, qui nous accompagne. On a créé un conseil d'orientation qui est composé de mademoiselle Françoise Barré-Sinoussi, notre président d'honneur Jean-Louis Chrétien, et la présidente de l'Académie de l'air et de l'espace, Anne-Marie Mingui. Et donc, on a réfléchi sur comment expliquer au public, aux gens qui ne sont pas dans le domaine, l'intérêt du satellite. Et on a des exemples d'applications, on a des présentations d'acteurs institutionnels, parce que c'est des outils qui coûtent cher, et donc les institutions sont parties prenantes, et on a des gens qui vont nous parler des applications futures. Et donc tout ça pour justement faire de la pédagogie, apprendre des choses aux gens, et aiguiser leur curiosité sur ces technologies.
C'est pour ça que l'Union africaine a une place centrale.
Tout à fait. Alors, c'est un acteur institutionnel qui est incontournable. Et on a fait venir le spécialiste de l'espace de l'Union africaine qui, justement, a expliqué leur position sur ces outils, sur l'intérêt d'utiliser ces outils et sur leur stratégie.
Ah oui, parce qu'ils ont un agenda même.
Oui, l'agenda 2063, je crois, qui touche beaucoup de sujets. Et le spatial est un sujet qui est important pour eux car ils savent qu'on peut développer le continent avec cet outil.
Je vous remercie.
Merci.
La semaine prochaine, nous allons vous parler de cette politique spatiale de l'Union africaine. L'affaire est importante car il s'agit d'un espace commun de 54 pays qui a la plus faible connectivité au monde et qui doit dépenser 400 millions de dollars pour avoir accès au numérique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr et pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.